Un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 23 décembre 2024. Et voici une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. La semaine dernière, je vous ai proposé des enregistrements de Jean-Marc Chiappa, de deux émissions de Jean-Marc Chiappa. Lundi 16, il s'agissait de la rediffusion d'un entretien entre Julien Théry de la chaîne Le Média et Jean-Marc Chiappa au sujet du livre de Jean-Marc Chiappa qui vient d'obtenir le prix Guizot de l'Académie française sur Gracchus Babeuf. Et jeudi et vendredi, c'était une diffusion d'une conférence qui s'est tenue il y a déjà quelques années sur le thème de la loi de 1905 et des colonies et de son application ou donc non-application dans les colonies avec, je crois, les dispositions qui étaient prévues. Il me semble que c'était l'article 43 de la loi de 1905. Voilà. Alors, j'espère que ces contributions de Jean-Marc Chiappa vous ont plu, que ça soulève là également toute une série de discussions, et puis que vous avez surtout pour l'émission de lundi dernier peut-être découvert ce personnage extraordinaire de Gracchus Babeuf, qui est d'une très très grande actualité. Si vous avez écouté notre émission, vous avez pu vous en rendre compte. Alors, avant d'en venir au sujet du jour, deux choses. Premièrement, quelques annonces. Le nouveau numéro de Front Laïque, la revue du groupe Fred Zeller, Libre Pensée d'Ordogne, est actuellement en cours de mise sous pli et d'envoi aux abonnés pour ce qui est de la version papier. La version numérique va être envoyée ce soir ou demain. Ça va être donc très très rapide. Je rappelle à ce sujet que notamment l'abonnement numérique est extrêmement simple puisque vous pouvez vous abonner à cette revue du groupe Fred Zeller en allant sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, et que vous y trouverez donc la page avec les abonnements à notre publication, soit en version papier à 12€, soit en version numérique. Et pour la version numérique, vous pouvez passer par LOASO, c'est ce qui vous est proposé sur cette page, sous forme d'un don au groupe Fred Zeller, d'un don minimum de 2€. Donc c'est vraiment une somme extrêmement modique qui vous permet de recevoir pendant un an la version numérique de Front Laïque. C'était la première annonce. La deuxième annonce, c'est le traditionnel banquet du 21 janvier qui ne se tiendra pas le 21 janvier puisque nous faisons ça traditionnellement un dimanche. Donc c'est la célébration de la décollation de Louis Capet et ce sera à Bourou. Le dimanche 26 janvier, nous allons prochainement envoyer les communications, les plaquettes de présentation de cette journée. Et je vous invite, pour ceux qui seraient intéressés, à vous y inscrire rapidement de façon à ce que nous puissions prévoir l'aspect logistique, puisque ce banquet est géré pour tradition de partager la tête de veau et que, bien évidemment, il y a des choses à prévoir en quantité. Selon donc le nombre d'inscrits. Donc voilà. La deuxième chose nous ramène à l'actualité tragique, Mayotte. Alors concernant Mayotte, c'est quand même assez compliqué parce que je vais partir finalement de ce qu'on a pu entendre dans différentes émissions, à la radio, à la télé, où on voit la population qui crie de l'eau, de l'eau, de l'eau. Certes, il y a eu un épisode climatique extrême qui a entraîné une dévastation de tout le pays, de tout Mayotte. Mais il faut quand même le dire, les conséquences ont été très, très largement aggravées par l'existence d'un État colonial dont les conséquences au quotidien sont celles d'une pauvreté très généralisée de la population qui, pour une bonne part, vit dans des bidonvilles, ou au mieux dans des habitations extrêmement légères qui n'ont pas résisté au premier vent du cyclone. Et cette population paye le prix fort au niveau des disparitions et des décès, puisque les personnes ont été entraînés par les torrents de boue, par les ruissellements torrentiels qui ont suivi ce cyclone, et qu'on est encore loin de connaître le bilan humain définitif de cet épisode de ce cyclone, mais j'irai, et surtout, des conséquences gravissimes de la gestion par l'État colonial. Cette existence de l'État colonial s'est manifestée donc avant le cyclone par les conditions de vie de la population, extrême pauvreté, l'habitation, je viens d'en parler, les prix des produits inaccessibles, etc. Dans le cyclone, que je le disais également à l'instant, par une destruction, une dévastation aggravée par ces conditions de vie de la population, et puis dans le traitement, la gestion de la catastrophe elle-même, où on voit que maintenant, plus d'une semaine après le cyclone, les éléments les plus immédiats, les plus essentiels au rétablissement d'une vie quotidienne forcément compliquée dans une telle situation, ne sont absolument pas assurés, parce que là encore, c'est un État colonial, et que pour l'État colonial, il est plus facile d'amener quelques compagnies de gendarmerie pour les répressions contre les soulèvements de population, que ce soit en Guadeloupe, à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie, que d'amener les besoins les plus essentiels, les sauveteurs en nombre, etc., à Mayotte. Les choses sont claires, la population continue de hurler « de l'eau, de l'eau, de l'eau ». Le président se déplace et, dans un mépris total, dit que si, sans la France, vous seriez, je le cite, 10 000 fois plus dans la merde, montrant ainsi le caractère grossier du personnage et le mépris le plus total envers une population totalement abandonnée à elle-même. Ce matin encore, dans les bulletins d'information, nous entendions les journalistes indiquer qu'ils étaient présents dans des villages où ils étaient les premières personnes que voyaient les villageois, qu'ils étaient toujours sans aucune aide apportée. Ils continuent de crier « de l'eau, de l'eau, de l'eau ». Alors bien évidemment, les différentes cérémonies, célébrations, hommages, etc., qui sont organisées, en particulier aujourd'hui un petit peu dans tout le pays, sont une chose, mais il n'y a qu'une réponse à la population, aux besoins de la population, c'est de régler ce problème vital, au plus, au sens le plus premier du terme, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ce cri retentit en permanence, et je crois que tant qu'on n'aura pas répondu correctement à cela, eh bien, effectivement, on va continuer à avoir des morts supplémentaires. Les enfants ne peuvent pas vivre pendant des jours et des jours et des semaines sans eau potable. C'est vraiment le premier problème qui se pose à Mayotte. Et la discrimination apparaît, puisque on a également entendu un certain nombre de propos par rapport à la population immigrée, notamment d'origine comorienne, avec des déclarations anticipant déjà sur la reconstruction de l'île qui devrait se faire, je reprends les expressions de ces personnages abjects, disant qu'il faudrait d'abord régler le problème de l'immigration dans le cadre de la reconstruction. C'est totalement odieux. Les secours doivent être apportés à l'ensemble de la population qui vit à Mayotte, quelle que soit son origine, quel que soit son statut. C'est la plus élémentaire, donc, des dispositions à prendre. Voilà. Donc je voulais commencer par cela. Hein. C'est un peu un cri du cœur que j'assume complètement à titre personnel, mais j'espère que je sais qu'il est partagé déjà par pas mal de nos amis. Alors voilà, maintenant je vais en venir à un sujet que j'ai largement, souvent, fréquemment évoqué dans cette chronique. C'est la question de la loi que nous appelons la loi séparatisme, la loi du 24 août 2000. La loi séparatisme pour laquelle a été organisée récemment des auditions pour faire une sorte de bilan de l'application donc de la loi du 24 août 2021. Donc voilà ce que nous en disons. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout de ce texte, mais je vais commencer à le lire. Ça me semble important. La Fédération nationale de la libre pensée se félicite de cette initiative parlementaire. Il s'agit d'une audition à l'Assemblée nationale, tendant à évaluer l'application de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. En effet, ce texte, que notre association a combattu pendant de longs mois avec d'autres organisations réunies dans un collectif animé par la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, porte atteinte, selon nous, à des libertés fondamentales. Il est difficile pour une association comme la nôtre de réunir les informations exhaustives sur les conséquences de cette loi, d'autant qu'elle aborde de nombreux domaines. Ainsi, sur le principe, la FNLP avait pris position contre les dispositions du texte en matière de commande publique, dont beaucoup sont d'ailleurs inutiles parce que allant de soi. En effet, si l'exigence de neutralité des agents d'un opérateur économique privé concourant à l'exécution d'un service public administratif ne souffre aucune exception, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation en mars 2013 à propos d'une employée d'une caisse primaire d'assurance maladie, il en va en revanche différemment lorsqu'on est en présence d'un service public industriel et commercial. Par exemple, doit-on exiger une absolue neutralité des salariés de droit privé employés par une société assurant l'enlèvement des ordures ménagères sur le fondement d'une délégation de service public ou des personnels de ménage d'une société de nettoyage titulaire d'un marché public d'entretien ? Nous ne le pensons pas, dans la mesure où il est ainsi implicitement, mais nécessairement, porter atteinte au principe de liberté de conscience reconnu aux salariés par l'article 1121-1 du Code du travail. Pour la présente audition, nous évoquerons principalement quatre sujets. L'extension du champ de la dissolution administrative des associations, le conditionnement de l'attribution d'une subvention ou d'une aide en nature gratuite en faveur d'une association à la signature d'un contrat d'engagement républicain, l'introduction d'un régime de reconnaissance préalable des associations cultuelles en rupture avec les principes posés par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, mais apte désormais à gérer un patrimoine non affecté au culte, et la restriction des possibilités offertes aux familles d'instruire leurs enfants à domicile. Alors, premier point, l'atteinte portée à la liberté d'association. La loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association est un texte de liberté si l'on met de côté le régime juridique particulier qui encadre l'activité des congrégations religieuses. Depuis la décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a reconnu à la liberté d'association le statut de principe fondamental reconnu par les lois de la République. La loi du 24 août 2021 a rendu plus fragile cette liberté fondamentale. Les individus sont entièrement libres de se réunir pour mener une action commune au sein de la société civile. S'ils déclarent leur groupement à l'administration en fournissant des informations sommaires, son objet, sa dénomination exacte, son siège et le nom de ses responsables, celui-ci acquiert la personnalité morale. De 1901 à 1936, aucune disposition législative ne donnait le pouvoir à l'administration de dissoudre une association. À partir de 1936, l'État est fondé à interdire par décret les associations provoquant à des actions armées ou présentant la nature de groupes de combat. L'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021, élargit abusivement le champ des dissolutions administratives des associations, constitue notamment des motifs d'interdiction d'un groupement, citation, les agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, le fait de contribuer par des agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, ou de leur appartenance, ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. » Fin de citation. De surcroît, les paroles prononcées par de simples adhérents, des salariés ou des bénévoles non membres de l'association, peuvent être retenues contre celle-ci, sauf si les dirigeants apportent la preuve qu'ils n'ont pas eu les moyens ni l'opportunité de s'y opposer. Notons que le Conseil d'État, dans son avis préalable de décembre 2020, n'a pas contesté l'extension des motifs de dissolution administrative des associations par le Conseil des ministres. Il a simplement indiqué que devaient être exclus des motifs de dissolution ceux ayant trait à la dignité humaine, trop compliqué, trop polémique, et aux, citation à nouveau, pressions psychologiques et physiques, déjà réprimées par la loi Picard de 2001 sur les sectes. Après la promulgation de la loi du 24 août 2021, la haute juridiction administrative a élaboré une sorte de guide d'application de la dissolution administrative des associations dans 4 décisions du 9 novembre 2023. Compte tenu de la gravité d'une mesure d'interdiction d'une association, le Conseil a précisé que l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure doit être strictement interprété. Seule une menace grave de trouble à l'ordre public peut justifier une telle mesure. Il importe en effet de concilier la liberté d'association et maintien de l'ordre public. Il n'en demeure pas moins que le Conseil a validé la dissolution de 3 associations sur 4 qui étaient donc mises sur la sellette, entre guillemets, le groupement antifasciste de Lyon et environ, connu sous la dénomination GAL, G-A-L-E, la coordination contre le racisme et l'homophobie, CRI, le CRI, et l'Alvarium. La première est intervenue sur le fondement de la provocation sur les réseaux sociaux à des agissements violents, ajoutée au premier de l'article L212-1 par la loi du 24 août 2021. Les 2 autres sur celui du 6e ayant trait à la provocation à la discrimination. Notons que, dans les conditions actuelles, le mouvement surréaliste créé il y a tout juste un siècle aurait pu être dissous en raison de la célèbre phrase d'André Breton « L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard tant qu'on peut dans la foule ». Le conditionnement des subventions ou aides en nature en faveur des associations. C'est donc le 2e point. La loi du 24 août 2021 a introduit un article 10-1 dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il s'agit de subordonner l'octroi d'une subvention ou d'une aide en nature, telle que, par exemple, l'attribution de la jouissance gratuite temporaire ou permanente de locaux, à la signature d'un contrat d'engagement républicain, CER, dont la libre pensée estime qu'il instaure une véritable idéologie d'État. Un décret du 31 décembre 2021 a fixé le contenu de ce CER qui appelle plusieurs remarques et dont l'application pose d'importants problèmes. Rappelons qu'avant la promulgation de la loi et la publication du décret, des élus avaient imposé sans base légale des chartes de la laïcité ou des CER, contrat d'engagement républicain, avant la lettre. Ainsi, le conseil municipal de Chalon-sur-Saône avait adopté une délibération du 8 avril 2021 imposant aux associations demandant une subvention de s'engager à, citation, « adopter en tout point un fonctionnement laïque », laïque, IC à la fin, I-C à la fin, et à, fin de citation, « s'abstenir de tout prosélytisme ». Le tribunal administratif de Dijon avait annulé cette délibération au motif que le conseil municipal, et ce que dit le tribunal administratif de Dijon est ceci, le conseil municipal a imposé les conditions qui, par leur caractère général, méconnaissent la liberté de conscience. À certains égards, le décret du 31 décembre 2021 dont le Conseil d'État a reconnu la légalité dans un arrêt du 30 juin 2023 encadre les ardeurs d'élus extrémistes comme ceux de Chalon-sur-Saône. Néanmoins, il impose aux associations subventionnées de souscrire à une idéologie qu'elles ne partagent pas nécessairement ou regardent avec suspicion. Ainsi, l'engagement numéro 6 concerne le respect de la dignité de la personne humaine. Derrière cette formulation se cachent des choix philosophiques radicalement opposés, tout en étant soucieux de la dignité de la personne humaine. Par exemple, faut-il interdire l'aide médicale à mourir ou au contraire l'autoriser ? De même, l'engagement numéro 7 impose de respecter le drapeau tricolore, l'hymne national et la devise de la République. Comment exiger cela, par exemple, d'associations regroupant des citoyens d'origine étrangère, dont l'action est souvent un facteur essentiel de cohésion sociale ou favorables ou d'associations favorables à une monarchie hiérarchisée ou réunissant des personnes proches du catholicisme intégriste. En tout état de cause, ce décret a soulevé des cas de conscience dans nombre d'associations parfaitement républicaines, mais hostiles au contrat d'engagement républicain, dont le fonctionnement dépend des aides en nature et ou des subventions reçues. Beaucoup ont signé à contre-cœur le contrat d'engagement républicain pour préserver des subventions indispensables à la poursuite de leurs activités, essentielles à la cohésion sociale et à la préservation de 2 millions d'emplois du secteur associatif. Parfois, la signature ne suffit pas à satisfaire les autorités concernées. Ainsi, le conseil municipal de la commune de Poitiers avait accordé en 2022 deux subventions de 10 000 et 5 000 euros en faveur de l'association Alternativa pour l'animation d'un atelier consacré à la désobéissance civile dans le cadre du village des Alternatives. Le préfet de la Vienne, M. Girier, s'appuyant sur le 8e alinéa de l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000, introduit par celle donc du 24 août 2021, c'est-à-dire qu'il y a un article qui a été rajouté dans la loi du 12 avril 2000 par la loi séparatisme, a demandé à la commune de Poitiers de mettre en recouvrement les subventions versées au motif que cette association ne mènerait pas une action conforme au contrat d'engagement républicain souscrit par la bénéficiaire. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les déférés du représentant de l'État dirigé contre le refus de la municipalité de Poitiers de procéder à cette mise en recouvrement. Sur un aspect particulier, le texte a des conséquences notables. Pour obtenir la jouissance gratuite, temporaire ou permanente d'une salle municipale, une association doit signer le contrat d'engagement républicain, alors même que la loi de 1901 lui permet d'avoir son siège en mairie sans contrepartie. De manière impressionniste, il semble qu'en bien des endroits, les maires évitent de procéder à cette formalité. Beaucoup ont mesuré l'apport du tissu associatif dans une commune et ne souhaitent pas soulever des polémiques inutiles. D'autres élus s'en prennent à la liberté d'association avant même que se pose la question de la signature ou non du contrat d'engagement républicain. Ainsi, à Montpellier, le maire refuse systématiquement les demandes de salles, gratuites ou payantes d'ailleurs, pour organiser des réunions publiques de soutien au peuple palestinien, de même que le préfet de l'Hérault a interdit nombre de manifestations sur la voie publique ayant le même objet. Les autres édiles appliquent le texte, mais nous n'avons pas d'écho d'éventuelles polémiques locales. J'aurai pas le temps d'aller jusqu'à la fin de ce texte. Donc il reste deux éléments que la Fédération nationale de la libre-pensée a mis en avant donc dans le cadre de cette audience devant les parlementaires. Donc la question de l'introduction d'un régime de reconnaissance préalable des associations cultuelles dont l'objet se banalise et la question donc de la limitation du droit d'instruire les enfants à domicile. Sur ces deux sujets, vous pourrez retrouver et puis relire, si vous le souhaitez, les deux premiers points en allant sur le site de la Fédération nationale de la libre-pensée, fnlp.fr, ou sur le site de la libre-pensée d'Ordogne, groupe Fretzeller, avec un article que nous mettrons donc en compte-rendu de la présente chronique. Alors, je vous propose maintenant d'en venir au choix musical. Donc, nous le faisons depuis de nombreuses semaines. Nous allons poursuivre notre balade dans le blues. Et aujourd'hui, je vais vous proposer d'écouter Charlie Parker dans un morceau Blues for Alice. La semaine prochaine, nous clôturons une première phase de ce travail qui a été réalisé dans le numéro spécial de l'Idée Libre autour du blues avec Miles Davis. Alors aujourd'hui, c'est Charlie Parker. Voilà. Alors, nous en arrivons à la conclusion de cette chronique dans laquelle, bon, ben, je vous rappelle tout d'abord la sortie du numéro de Front Laïque. Là, c'est pour aujourd'hui et demain pour la recevoir au niveau des abonnés. Et puis donc le banquet traditionnel de, pour célébrer la décollation de Louis Capet le 26 janvier à Bourou. Là encore, vous recevrez les informations très rapidement pour ceux qui souhaitent s'y inscrire. Et puis une dernière information. La Fédération nationale de la libre-pensée a répondu positivement à la proposition des éditions libertaires de participer à la confection d'un ouvrage en hommage à Cabu, qui fut naguère la conscience militante, joyeuse et pacifiste de Charlie Hebdo. La FNLP a toujours eu quatre fondements de son action nationale et internationale, sur le plan institutionnel par la laïcité fondée sur la séparation des églises et d'États, sur le plan philosophique par l'irreligion puis l'athéisme, sur le plan économique et social par la lutte contre l'exploitation capitaliste, sur le refus de la guerre par le pacifisme internationaliste. À l'heure où les chars, les canons, les bombes, les missiles tonnent et tombent à nouveau sur toute la planète et parfois si proche de notre, entre guillemets, douce France, au moment où on génocide à tout va, notamment le peuple palestinien, pour lui nier son droit à récupérer sa terre et à y vivre en paix, au moment où le gouvernement français décide de réarmer le pays par une loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros, où l'économie devient de plus en plus une économie de guerre, où les mêmes réactionnaires et vieilles ganaches veulent mettre au pas la jeunesse par le service national universel, par sa militarisation forcée, il est plus que salutaire de rééditer Cabu et son action pacifiste et anti-guerre. La libre pensée qui combat pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de 1914-1918 et pour mettre en œuvre une véritable solidarité internationale avec les déserteurs et objecteurs de conscience de tous les pays fera de cet ouvrage un outil pacifiste, notamment à l'occasion de la centaine de rassemblements qu'elle organise dans l'unité la plus large autour du 11 novembre et aussi tout au long de l'année. Donc, cet ouvrage est vendu à 15 euros l'exemplaire, mais il faut rajouter donc les frais de port. Là encore, il y a un article sur le site de la Fédération nationale FNLP.fr où vous aurez toutes les informations et où vous pourrez vous le procurer. Je pense qu'également, nous ferons le nécessaire au niveau du groupe Fraiselaire pour pouvoir en disposer localement. Voilà, merci et à la semaine prochaine.
En forgeant un socle de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.